Bon, cerveau et talent, c'est la règle de trois de Sama Karaki. Née à Beyrouth il y a 38 ans, la petite Sama a grandi du côté musulman de la ville, auprès d'un père porteur de valises et d'une mère qui poussait ses enfants à réussir à l'école.
Quand je dis aux gens que je viens de ce pays, souvent j'ai deux réactions. Soit on me dit « Ah mais j'adore la cuisine libanaise !» Soit on me dit « Quel peuple résilient !»
C'est sans doute par pudeur ou résilience qu'elle parle aujourd'hui de circonstances ordinaires pour évoquer son enfance sans faire cas de la guerre civile ni de son milieu populaire. Son ouverture aux autres et au monde se fera par le théâtre. Cette bonne élève découvre les planches dans son école de filles. En même temps que la littérature française, la France restera dans un coin de son cerveau. Parce qu'elle a de bonnes notes en biologie, celle qui se voit assistante directrice au Pizza Hut de Beyrouth se retrouve en licence de biologie à l'université Saint-Joseph. Intéressée par le fonctionnement des choses et donc du cerveau, elle découvre les neurosciences lors d'un stage de recherche au Max Planck Institute de Munich. Suivront un Master 2 en neurosciences cognitives à Lyon, un doctorat à Montpellier et un travail de 5 ans sur nos comportements émotionnels et sociaux à l'université Pierre et Marie Curie. Et toujours en parallèle, des petits boulots de vendeuse ou serveuse. Pour cette actuelle professeure à l'ECE, une école d'ingénieurs, le cerveau humain est bien plus qu'un organe à étudier en laboratoire. Celle qui fait dialoguer biologie et sciences sociales avec son ONG, le Social Brain Institute, donne aujourd'hui des conférences dans le monde entier. Parmi toutes les thématiques abordées, il y a la question de la méritocratie, néfaste selon elle, et du talent. Un mythe ou plutôt une fiction, c'est d'ailleurs le titre de son nouveau livre.
On va juste regarder le produit final et on va considérer que tel sportif ou tel musicien ou tel scientifique y arrive sans regarder ce qui s'est passé derrière comme avantage ou désavantage.
Mozart, Darwin, Tiger Woods ou les Sir Williams, les génies seraient géniaux, surtout en raison d'un certain déterminisme social. Sama Karaki. Mais quel talent!
Alors Sama Karaki, parmi ces mythes que vous déconstruisez, il y a donc celui de l'idée selon laquelle le talent s'hériterait en quelque sorte, qu'il y aurait une part d'inné, une part de génétique dans le talent, dans la réussite des uns ou des autres. Pour vous, il n'y a rien qui relève de l'inné?
Non, bien sûr que non. C'est ce que nous avons comme biologique est façonné par le vécu. Donc il n'y a pas cette opposition, ni cette addition. Ce n'est pas une question de pourcentage de biologie plus pourcentage de social. Nos corps, sur lesquels reposent nos compétences, mes compétences mentales, sur lesquelles reposent mes compétences, sont façonnées par le vécu, sont façonnées par ce qui traverse mon corps. On commence par la nourriture qui traverse mon corps, par la fatigue, par les croyances, par les stéréotypes, par les privilèges.
Mais aussi par une part d'hérédité quand même, par une part d'inné.
Voilà, mais qui ne détermine pas ce que je vais être. Donc ce que je vais vivre va permettre à ces prédispositions de s'exprimer ou pas.
Le talent est une fiction, c'est le titre de votre ouvrage, qui pourrait être aussi traduit par si le talent est une fiction, le réel, en quelque sorte, la réalité, c'est le travail, le mérite, l'effort. Mais non, la méritocratie aussi, c'est quelque chose que vous récusez. Vous récusez aussi cette notion de mérite et de réussite.
Ce que je récuse, c'est cette ligne causale directe entre les dispositions individuelles et la réussite. Ça veut dire que ce soit les prédispositions génétiques, l'effort ou la force du mental avec ce courant
c'est
de développement personnel.
En fait,
voilà. On est traversé par les autres, on est traversé par le monde et on est donc façonné par ces éléments. Donc il faut élargir les circonstances qui permettent de considérer que quelqu'un a réussi ou pas. Et c'est en cela que limiter ou réduire notre être à notre biologie est scientifiquement sans fondement.
Donc si je vous écoute bien, Sama Karaki, moi qui étais nul en solfège, si je m'étais accroché, j'aurais pu devenir un grand pianiste, j'aurais pu devenir Mozart.
Pas nécessairement, parce qu'il fallait aussi que vous ayez accès au bon dispositif, il fallait que l'apprentissage arrive au bon moment de votre développement, et il fallait aussi que vous ayez une disponibilité mentale qui vous permette d'accéder à la bonne stratégie pour vous aussi.
Donc c'est ce que vous appelez la magie des circonstances, c'est ça, la magie des
La magie et le hasard, mais aussi...
Ouais. La chance, en fait, c'est la chance. C'est la chance qui détermine nos parcours.
D'abord, il y a qui sont vos parents, qui sont les parents qui vont détecter en vous quel type de motivation fonctionne pour vous. Vous allez avoir peut-être les bons professeurs, vous allez avoir les bons dispositifs. On sait que, par exemple, aujourd'hui, on joue la musique beaucoup plus facilement qu'il y a 2 siècles. Pourquoi ? Parce qu'on a fait avancer les instruments, on a fait avancer les dispositifs. Et cela, ça change tout dans un apprentissage. Et donc, du moment où vous dites « je suis nul en solfège », vous avez déjà fixé une croyance sur vos aptitudes qui, elle aussi, joue sur l'envie, sur le désir que vous avez pour apprendre ou pas. Et tous ces paramètres deviennent tellement complexes qu'il devient très absurde que je le lis à vous. Donc c'est lié à plein d'autres circonstances.
Ce que vous dites, oui, il ne faut pas simplement vouloir, il faut pouvoir vouloir, en quelque sorte, c'est ce que vous dépeignez à travers ces circonstances. Et dans votre livre, vous prenez des exemples très, très précis, très concrets dans notre histoire contemporaine. Vous évoquiez Mozart à l'instant, Benjamin, ou des exemples aussi de sportifs, de grands sportifs, en disant, par exemple, Usain Bolt, le sprinteur jamaïcain, ou les sœurs Williams en tennis, si elles sont devenues des championnes, elles ou lui un champion, c'est parce qu'ils ont été, en quelque sorte, encouragés, façonnés justement par leur environnement familial.
Il ne faut pas tomber dans le piège de cause unique, c'est-à-dire que nous sommes des êtres très complexes et donc oui, les moyens, les origines, les origines parentales, la classe socio-économique est déterminante dans ce que nous pouvons faire pour faire fructifier nos talents parce que le capital matériel viennent déverser sur les autres capitaux.
Parce
ça veut dire
aussi,
je vais avoir accès au bon coach, je vais avoir accès au temps, au support.
Même s'il y a aussi des contre-exemples. Il y a de nombreux contre-exemples parmi les sportifs qui ne sont pas eux-mêmes, qui n'ont pas été encadrés dans leur plus jeune âge par des grands sportifs.
Ces contre-exemples sont des biais de survivants dans lesquels il ne faut pas tomber parce que ça ne représente pas les statistiques ni la réalité du monde. Donc ceux qui échappent ne constituent pas la règle.
On évoquait les parents, justement, les parents et leurs enfants. Et Nadia, les parents sont de plus en plus soucieux aujourd'hui d'essayer de voir si leur progéniture ne relèverait pas d'une classification qu'on appelle HPI.
Ouais, c'est-à-dire haut potentiel intellectuel, et ses parents l'espèrent même, ça veut dire être HPI, avoir un QI supérieur à 130, c'est même devenu une sorte de graal parental très populaire. Les demandes de diagnostic ont explosé, les livres sur le sujet pullulent, alors que ça concerne à peine 2% de la population française. C'est également un business, puisque des organismes proposent des tests très chers, il faut compter plusieurs centaines d'euros parfois. Et c'est ce qui fait dire à un sociologue qui s'appelle Wilfried Ligné que c'est aussi une stratégie pour des parents riches de négocier des passe-droits pour leurs enfants, notamment dans le milieu médical. En gros, ce qu'il dit, c'est votre enfant n'est pas HPI, vous êtes simplement riche. Vous êtes juste riche, exactement. Est-ce que vous voyez un intérêt dans le fait de savoir, de chercher à savoir si notre enfant est supérieurement intelligent? Qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans?
Je ne porte pas de jugement sur les intentions des parents. Je pense que nous voulons tous le meilleur pour nos enfants. Par contre, il y a deux choses à questionner. D'abord, l'obsession d'une certaine forme d'intelligence qui est mesurée par ces tests, qui ne représentent pas la complexité de l'intelligence humaine, elle représente la rapidité, la précision de certaines compétences cognitives. Et la deuxième, c'est de considérer que l'école, c'est un lieu d'évaluation, alors que l'école peut être aussi un lieu dans lequel on négocie nos différences, on questionne le monde, comme ça m'est arrivé par le théâtre, par exemple, où il n'y avait pas un souci d'évaluation, mais j'arrivais à accéder à un vocabulaire, accéder à des rêves différents, et donc à d'autres façons d'imaginer
un ailleurs.
Mon parcours. Et c'est en cela, donc en fait, on se trompe de réduire l'intelligence à ce que mesurent ces tests, et on se trompe en imaginant qu'il y a une hiérarchie de réussite dans la société qui ne peut donc être considérée que par un type de diplôme, par un type de métier, et c'est en cela qu'on passe à côté de l'hédonisme de l'enfance.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque, quand on vous lit, Sama Karaki, si on voit d'un côté qu'effectivement il y a ce déterminisme social, culturel, économique, qu'on est traversé par autrui pour construire nos parcours, comme vous le disiez, si de l'autre côté il y a aussi cette magie des circonstances que vous dépeignez, que finalement on se disent que la volonté, le libre arbitre ne pèsent pas pour grand-chose. Est-ce que ce n'est pas un peu une incitation à la passivité, si j'ose dire?
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette pensée binaire de considérer que l'alternative à la méritocratie, c'est le fatalisme social, tel que certains sociologues peuvent l'exprimer. L'alternative à la méritocratie, c'est beaucoup de chantiers à innover ensemble. Ça veut dire de réfléchir des modèles sociaux dans lesquels on lève les barrières pour qu'on ait tous accès à la possibilité de se réinventer. Donc le libre arbitre, il n'est pas aussi réel tel qu'on peut l'imaginer. Il existe dans une fine marge de manœuvre.
Il joue un rôle, quand même.
Il joue un rôle.
Notre volonté joue un rôle. Nos choix jouent
des rôles. Une lecture claire et consciente de ce qui nous détermine, c'est là qu'on peut s'en échapper. Et c'est collectivement qu'on peut le faire.
Eh bien, à propos de lecture claire et consciente, donc il faut recommander la lecture du Talent est une fiction, votre livre, Sama Karaki, paru aux éditions Lattès. Merci à vous d'être venu.